écologique le reconnaît elle-même, la France ne remplit pas les objectifs qu'elle s'était fixés. Comment expliquer que ce soit si lent et difficile alors que la lutte contre le dérèglement climatique est une priorité? La loi climat, issue des travaux de la Convention citoyenne, sera-t-elle à la hauteur des enjeux, des promesses et des ambitions affichées?
Les matins du samedi, dès 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire, un grand dossier sur l'amour au temps de la pandémie. Confiné ou à distance, comment se rencontrer et s'aimer? Réponse avec Shakespeare, Kafka ou Jankélévitch, ainsi qu'à travers des témoignages bien actuels. Découvrez également une réflexion sur notre rapport au temps, le monde d'images d'Anne Kibilal et un débat sur l'enseignement des faits religieux à l'école. Papier, en kiosque et librairie. Votre soirée sur France Culture. 22h15, par les temps qui courent. Encore un album du confinement, Notes from Villegar Hill. Confiné dans ce quartier de Los Angeles où il vit depuis 2015, le Parisien d'origine suédoise revient, sans son frère, sous le nom d'Herman Dune. Un album chaleureux aux allures de ballade, entre pop, bluegrass, country, folk ou rock. Une dizaine de compositions aux influences multiples. Herman Dune, invité de Romain de Becdelièvre. 23h, grand reportage. On les nomme REP. Derrière ce label se cachent les réseaux d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, plus de 7500 écoles primaires et collèges. Pour accompagner au mieux la scolarité, des moyens supplémentaires leur sont attribués. Mais ces réseaux, des établissements pourtant tout aussi en difficulté, en sont exclus. À quoi ressemblent-ils? Les orphelins de l'éducation prioritaire, grand reportage par Thomas Giraudeau dès 23h. Belle soirée sur France Culture. Tout de suite, le journal.
Il est 22h sur France Culture et le journal vous est présenté par Marc Poitevin. Bonsoir Marc.
Bonsoir et merci Frédéric Worms. Bonsoir à toutes et à tous. Passé le choc, voici venu le temps de l'action. Un recours en référé liberté pour demander la réouverture des salles au plus vite est en cours de préparation. L'acteur et directeur de théâtre Charles Berling mène ce combat. Nous l'entendrons dans un instant. Ce recours va à l'encontre de la décision de l'exécutif prolongée d'au moins 3 semaines la fermeture des cinémas, théâtre ou encore salle de spectacle. Faut-il y voir une rupture entre le pouvoir et le monde de la culture? Nous poserons la question à notre invité, spécialiste des politiques culturelles. Le début d'un week-end décisif pour les négociations en vue d'un accord commercial post-Brexit. L'Union européenne et le Royaume-Uni se donnent jusqu'à dimanche pour s'entendre, ça paraît mal engagé. Et puis autour du Sénat argentin, de dire oui ou non à la légalisation de l'avortement après le vote des députés tout à l'heure. Eux ont dit oui. Explosion de joie chez les militants pro-IVG, nous le verrons. Au lendemain des annonces du Premier ministre, le monde de la culture a donc décidé de riposter. En première ligne, Charles Berling qui planche sur un recours en référé liberté pour demander la réouverture des salles au plus vite. Leur fermeture est en effet prolongée d'au moins 3 semaines puisque la situation sanitaire n'est pas aussi bonne qu'espérée. Claire Flochel, la démarche de l'acteur et directeur de théâtre est soutenue par plus de 300 professionnels du secteur de la culture.
Un sentiment d'injustice immense et beaucoup de colère. Voilà pourquoi Charles Berling a entamé cette procédure. Le comédien explique que le monde de la culture est mis de côté depuis bien trop longtemps maintenant.
On ne peut pas rester les bras croisés, voir les rues, les commerces, les grands commerces, les centres commerciaux bourrés de gens. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a toute la faute sur lui, qui doit rester fermé, ce sont les théâtres et les cinémas. Non mais c'est une plaisanterie. Il y a toutes sortes d'artistes, il y a toutes sortes d'intermittents. Il y en a qui crèvent, vraiment, qui n'ont plus rien depuis 10 mois.
Ce référé liberté est initié par Charles Berling, mais c'est en fait tout le monde du cinéma et du théâtre qui est en train de se mettre en action pour réclamer justice. Nicolas Dubourg, le président du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, nous explique comment les choses se sont mises en place très vite dans l'après-midi.
Nous avons eu une réunion aujourd'hui à 13h au niveau intersyndicales, hein, donc ce sont aussi bien la CGT, FO, donc les syndicats salariés, que les organisations employeurs. Il y avait plus de 40 personnes autour de la table et nous avons décidé tous ensemble de mettre en place une série d'actions et le référé liberté a été validé par les personnes présentes. Donc voilà, c'est ce à quoi nous allons travailler dans les prochains jours.
40 personnes autour de la table, mais qui représentent en fait des centaines de milliers de personnes, comédiens, techniciens, distributeurs, directeurs de salles, musiciens ou encore danseurs. Le référé liberté est une procédure judiciaire pour contester le fondement du nouveau décret qui établit les nouvelles règles en vigueur au 15 décembre. Il sera donc déposé dès la sortie de ce nouveau décret qui devrait intervenir d'ici la fin de semaine ou peut-être lundi.
Claire Flochel, invitée de ce journal. Quentin Fondu, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste entre autres des politiques culturelles. Bonsoir.
Bonsoir.
On a donc un acteur, Charles Berling, et plus de 300 professionnels qui prennent les armes pour aller à l'encontre d'une décision du gouvernement. Est-ce qu'on a atteint le point de rupture entre l'exécutif et le monde de la culture ?
Un point de rupture, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça s'analyse dans le cadre des mouvements précédents. C'est pas la première fois que les différents acteurs du monde de la culture font montre d'une forme de défiance vis-à-vis du gouvernement. C'était déjà le cas pendant le premier confinement où il avait été reproché à Franck Riester et à Édouard Philippe en particulier de ne pas véritablement s'intéresser à la question de la culture.
À l'époque, Franck Riester, qui était ministre de la Culture, et Édouard Philippe, premier ministre.
Tout à fait, donc il y a quelques mois. C'est vrai que pour le coup, on a eu un peu l'impression que c'était des thématiques qui étaient davantage mises sur le devant de la scène, aussi portées par Roselyne Bachelot. Mais c'est vrai que là, la dernière décision rend difficile un petit peu la lecture d'une politique culturelle cohérente. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est en jeu. C'est pas simplement la décision de la poursuite de la fermeture des salles, mais aussi la difficulté de se positionner et de se projeter dans l'avenir pour le monde de la culture.
Au milieu de tout ça, il y a la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot, elle n'était pas présente hier soir à la conférence de presse où des mesures importantes relevant de son portefeuille ont été annoncées, en l'occurrence le report de la réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacle. Comment faut-il l'interpréter, cette absence ?
On sait que depuis des décennies, c'est quand même plutôt Bercy qui prime sur des problématiques artistiques et culturelles. Je pense que là, justement, c'est un petit peu effectivement une nouvelle manifestation de cet élément. Roselyne Bachelot avait reproché également à Gérald Darmanin de ne pas avoir été impliqué dans les décisions relatives à la loi de sécurité sur la question des journalistes en particulier. Donc vraiment, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est la question des conflits entre des ministères, entre plusieurs conceptions. Je pense que Roselyne Bachelot fait en quelque sorte les frais de ses politiques, de ses conceptions, alors même qu'elle avait été, je pense, nommée aussi pour proposer une politique un peu différente de celle qui était celle de Franck Riester, qui était quand même très peu audible. Il avait été reproché, comme j'ai dit aussi, dès le mois de mai.
À vous entendre, on a le sentiment d'un affaiblissement du ministère de la Culture dans tout ça.
Alors effectivement, oui, Roselyne Bachelot serait sûrement pas d'accord avec moi. Elle a donné une interview il y a quelques jours, il y a un ou deux jours il me semble, où elle affirmait que son budget en particulier était en hausse, c'était particulièrement bon si on le comparait au ministère précédent. Mais je pense que d'une part, cette question du budget, elle est relative à la crise qui est liée, donc tous les frais qui affleurent, et que, voilà, plus généralement, c'est ça. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de politique cohérente, de vision de la culture qui est proposée, qui, à mon avis, se joue encore aussi aujourd'hui.
Elle a aussi indiqué ce matin sur BFM TV qu'elle avait dit au Premier ministre qu'elle avait besoin de 35 millions d'euros supplémentaires pour faire la fin de l'année et qu'elle sait qu'elle les obtiendra pour les cinémas, théâtres, lieux de concert et opéras. C'est aussi une manière pour vous de prendre le monde de la culture à témoin, expliquer que ça se passe encore rue de Valois au ministère de la Culture.
C'est effectivement possible, oui, c'est tout à fait probable, c'est assez logique même de sa part de jouer cette carte-là contre d'autres ministères, en particulier le ministère de l'économie. Il est assez probable qu'elle obtiendra cette aide supplémentaire par rapport à celle qui avait été allouée. La question, c'est est-ce que ça suffira véritablement pour dépasser cette crise et pour l'avenir. Ça, c'est moins sûr, c'est moins évident.
Quelles conséquences sur le long terme, selon vous, de cet épisode du Covid-19 sur les relations entre d'un côté le monde de la culture et de l'autre l'État ?
Sur le long terme, c'est difficile de prévoir. On peut tout de même considérer que cette crise va, d'une part, bon, avoir des conséquences économiques directes sur un certain nombre d'entreprises culturelles, mais qu'en termes de confiance, effectivement, en termes de relations symboliques entre les deux, ça va avoir des conséquences, c'est assez évident. Encore une fois, après, les choses peuvent évoluer assez vite, et je pense que ne serait-ce que le fait que Roselyne Bachelot ait remplacé Franck Riester, ça a déterminé quand même une nouvelle relation entre les artistes et enfin entre les acteurs du monde culturel et les pouvoirs publics. Donc les choses peuvent évoluer aussi assez vite de ce point de vue-là.
Merci à vous, Quentin Fondu. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste, entre autres, des politiques culturelles. Le nombre de malades du coronavirus en réanimation continue de diminuer légèrement en France, un peu moins de 2900 ce soir. Le nombre de nouvelles contaminations, lui, reste très haut, près de 13 500, toujours très loin des 5000 cas par jour visés par le gouvernement. Chiffre de Santé publique France qui souligne qu'il existe un risque élevé que la circulation du virus reparte à la hausse dans les prochaines semaines. De son côté, Emmanuel Macron appelle les Français à redoubler de vigilance lors des fêtes de fin d'année. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, prévu du 8 septembre l'an prochain à fin mars 2022, 20 personnes seront jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris, dont Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé des terrasses, le Bataclan et les abords du Stade de France. 130 morts à Paris et Saint-Denis ce soir-là. L'Union européenne et le Royaume-Uni se donnent jusqu'à dimanche pour conclure un accord commercial post-Brexit. Mais plus les heures passent, plus cette perspective semble s'éloigner. L'échec des négociations est très, très probable, estime ainsi le Premier ministre britannique. Côté européen, le pessimisme prend aussi le dessus, Angélique Bouin.
C'est le seul sujet qui a assombri les mines à l'issue du sommet marathon des 27 dirigeants réunis à Bruxelles autour de la table du Conseil. Les chefs d'État et de gouvernement n'en ont d'ailleurs parlé qu'une dizaine de minutes. Le temps d'être briefé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les négociations se poursuivent, a-t-elle dit, mais rien n'est encore résolu. Ni la question de la pêche, ni celle des conditions de concurrence équitable. L'Union européenne, sur ce sujet, a fait une proposition très claire aux Britanniques. Ils ne conserveront l'accès au marché unique, 450 millions de consommateurs, sans droits de douane ni quota, qu'en échange de garanties précises. Pas question que leurs normes environnementales, sociales, fiscales ne divergent trop sans que l'Europe ne puisse obtenir de compensation. C'est tout l'enjeu des discussions actuelles. Ursula von der Leyen.
Le principe d'une compétition juste est un préalable pour accéder de façon privilégiée au marché européen. C'est le plus vaste marché unique au monde. Et il est simplement juste que les concurrents de nos entreprises soient soumises aux mêmes règles qu'elles sur notre marché intérieur. Quoi qu'il arrive, dans moins de 3 semaines, ce sera un nouveau départ pour d'anciens amis.
Les négociateurs européens et britanniques sont toujours à pied d'œuvre, a ajouté la présidente, qui rappelle leur avoir donné avec le Premier ministre britannique Boris Johnson jusqu'à dimanche. En prévision d'un échec de ces discussions, la Commission européenne a publié hier des mesures d'urgence pour éviter toute pagaille, par exemple dans les transports. Elle propose de maintenir une connectivité dans l'aérien et le routier pendant 6 mois, sous réserve néanmoins que Londres prenne les mêmes dispositions.
Angélique Bouin, avant de quitter Bruxelles, les dirigeants de l'Union ont conclu un accord pour réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Baisse nette d'au moins 55% par rapport au niveau de 90. Consensus trouvé à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Entre 2015 et aujourd'hui, les États-Unis ont quitté cet accord avant d'annoncer leur retour. Conséquence de l'élection du démocrate Joe Biden à la tête du pays. Il faut s'en réjouir, mais aussi rester prudent, estime François Gémen, chercheur en géopolitique de l'environnement.
Mais je crois qu'il faut quand même se souvenir que l'administration américaine, y compris sous des présidents démocrates comme Bill Clinton ou Barack Obama, a toujours essayé quelque part de tirer vers le bas le niveau d'ambition de la coopération internationale. Or, on sait qu'à la COP26 qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021, il va falloir redoubler d'ambition pour atteindre les objectifs de Paris. Il va même peut-être falloir envisager certains mécanismes contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et malheureusement, je crains que l'administration américaine, même sous Joe Biden, ne s'oppose à un niveau d'ambition qui soient relevés, notamment via des mécanismes contraignants. Et puis, l'autre risque que je vois, c'est le risque d'un mouvement de porte battante. Le retour des États-Unis sous présidence démocrate ouvre aussi la voie, potentiellement, à une nouvelle sortie si un président ou une présidente républicaine était élu en 2024. Et donc, ce serait un signal assez dramatique de fragilité et d'instabilité qu'on adresserait aux entreprises et aux marchés si, quelque part, le processus de coopération internationale dépendait du résultat de l'élection américaine. Il ne faudrait pas que les États-Unis entrent et sortent dans l'accord de Paris au gré du résultat de leurs élections.
François Gemmen, chercheur en géopolitique de l'environnement, il répondait à Véronique Rebérotte. 131 votes pour, 117 contre, 6 abstentions. Les députés argentins disent oui à la légalisation de l'avortement dans le pays. Au tour des sénateurs maintenant de voter. Si le combat n'est pas terminé, les militants pro-IVG ont tout de même laissé éclater leur joie tout à l'heure. Caroline Vic l'a constaté à Buenos Aires.
Au pied du Congrès, d'un côté les foulards bleus pro-vie, de l'autre les foulards verts pro-avortement. C'est le moment du vote. Tous ont les yeux rivés sur les écrans géants. Explosion de joie chez les verts. Claudia tombe en pleurs dans les bras de sa fille.
Je ne peux même pas parler. Ce sont 40 ans de lutte. Mais passer par là deux fois, c'est héroïque.
À quelques mètres, Daniela, des paillettes vertes sur les paupières, danse au son des tambours.
C'est une libération totale. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Et la société le comprend peu à peu. Ça a été une année très dure. Et ce vote des députés et l'espoir que ça passe au Sénat, c'est vraiment ce dont on avait besoin.
En 2018, déjà, les députés avaient dit oui au projet qui avait finalement été rejeté au Sénat. Même expérience cette fois, c'est une première victoire, mais la lutte continue. Johanna.
Je sais bien qu'il manque encore la décision du Sénat, mais on ne va rien lâcher. On continue avec force, insistance, solidarité et surtout sororité.
Après les élections législatives l'année dernière, le Sénat n'est plus celui de 2018, ce qui donne de l'espoir au foulard vert. Le vote des sénateurs est attendu avant Noël.
Reportage de Caroline Vic, un temps souvent nuageux demain avec des averses du sud-ouest au nord-est, température maximale entre 6 et 11 degrés en général, entre 12 et 15 du sud-ouest à la Méditerranée. Ce journal a été réalisé avec l'aide de Caroline Beneteau.